Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.
Petit pot de biscuits, tome 3, de Ginette Levesque et la voix de Lise Lachapelle. Voici le résumé. Petit pot de biscuits est un récit autobiographique relatant ma vie scolaire et professionnelle à l'intention des enfants différents et leurs parents. Réussir sa vie et dans la vie sont intimement liés à l'estime de soi. Oui, il y a une lumière au bout du tunnel, et toutes ces autres qui brillent sur notre route, elles ont pour nom l'amour des autres, l'amour de soi. Si les yeux sont le miroir de l'âme, je puis vous dire que les 50 années qui séparent ces photos témoignent de mon essence. L'ouverture du cœur. Petit pot de biscuits devient rapidement vite s'il donne sans jamais recevoir. Prêt pour la dégustation? Collège Sophie Barrat. Je suis inscrite au Collège Regina Assumpta, collège privé, huppé et recherché par tous les parents de la classe moyenne qui cherchent à procurer à leurs enfants une éducation chez les religieuses. J'y ai été acceptée sur la présentation de mes résultats au QI. Quand vient le temps d'effectuer le paiement des frais de scolarité et d'obtenir la liste du matériel scolaire, c'est mon père qui se présente au bureau de la mère supérieure. Il n'a pas revêtu ses plus beaux habits, bien au contraire. Il est fier de montrer qu'il est ouvrier. Une discussion animée s'ensuit avec la mère supérieure. Mon père exprime vertement sa pensée quant au coût relatif à mon admission. Disons qu'il n'a pas fait bonne impression, et ma mère, connaissant très bien les religieuses, a préféré me retirer du collège afin que je ne porte pas l'odieux des esclandres de mon père. Me voilà donc inscrite au collège Sophie Barrat, au cours scientifique. L'école est encore dirigée par des sœurs, mais en voie de devenir laïque. Notre mère supérieure a une voix forte, un ton ferme et une carrure imposante. Elle règne et nous savons d'ores et déjà que c'est elle le boss. J'ai le privilège d'avoir pour enseignants des gens de plusieurs nationalités. Égyptienne, espagnole, japonaise, polonaise. Il y a des professeurs timides, dont Monsieur M, qui nous enseigne la chimie. Pauvre petit lui, comme dirait notre sol national. Il ne sait que faire devant une classe d'adolescentes de 15 ans qui s'amuse à le faire rougir. Dans un synchronisme parfait, nous croisons et décroisons nos jambes de gauche à droite. Il en perd ses formules et ses moyens. Madame Bété, quant à elle, nous enseigne le français et la morale. Elle porte une perruque dont le toupet ressemble étrangement à celui d'un personnage du groupe sanguin. Elle croit nous apprendre les mystères de la vie, alors que nous pourrions lui apprendre bien autre chose. très exigeante au niveau de nos travaux, elle nous inculque la rigueur. Quant à Madame V, ses stratégies d'apprentissage sont plutôt novatrices pour l'époque. Elle intègre le chant dans ses cours par des chansons populaires. Revenons à la première année du secondaire. Une école construite au bord de la rivière des Prairies. Un petit pavillon où la cigarette était maîtresse. La salle de loisirs avec le jukebox où nous entendions les airs à la mode. Hey Jude, Honky Tonky Woman. Je suis encore la plus jeune. Je suis tout aussi malheureuse à la maison et ces filles-là le sentent. Je deviens le bouc émissaire. Oh, rien de bien méchant. Du harcèlement sur des bas supposément sales. En réalité, mes souliers tachent mes bas et, malgré les nombreux lavages, les taches demeurent. Je reçois des messages anonymes. C'est terrible, des messages anonymes. Tu soupçonnes les gens, mais tu ne peux accuser personne. Des accusations gratuites, de la torture mentale. Car tu vis sous tension, te demandant à quand le prochain message. Et sans être paranoïaque, tu commences à le devenir. Qui fait ça? Pourquoi le fait-on? Qu'ai-je fait? Rien, sinon que d'être là, d'avoir un comportement de victime. Je ne dors plus. Je ne veux plus aller à l'école. Je veux mourir. J'en ai assez de cette souffrance qui m'habite depuis l'âge de 9 ans. Je ne démontre rien en classe. Je ne veux pas leur donner prise. Puis, un jour, la coupe déborde. L'une d'entre elles décide qu'elle veut occuper ma place. Je refuse. Je reste assise à mon bureau avec la ferme intention de ne pas bouger de là. Voyant ma résistance, elle décide de pousser mon bureau malgré le fait que je sois encore assise. Je ne bronche pas. Elle réussit à me déplacer jusqu'à la porte, non sans effort. Lorsque notre tuteur fait son entrée en classe, demandant ce qui se passe, la harcèleuse ne sait quoi dire. Les élèves ne disent rien. Et moi aussi, je me tais, retournant à ma place avec mon bureau. Cet épisode a marqué la fin de l'intimidation. L'année suivante fut une belle année. Nous avons organisé plusieurs parties, ainsi qu'un défilé de mode, avec la complicité de la mère d'une des filles du groupe. Cette année-là, c'était le Bill 63, les élections de Robert Bourassa, dont l'une d'entre nous était une fervente admiratrice. Les drogues étaient aussi présentes. Les policiers étaient venus en classe faire des interventions. Ma mère avait reçu un appel de la direction qui croyait que je fumais du pot parce qu'en classe, j'étais souvent dans la lune et que je jouais avec une mèche de cheveux. Vraiment! J'avais réussi à trouver ma place au sein de ce groupe, et cela me faisait le plus grand bien. Nous avons, pour titulaire, une sœur très kinesthésique, qui avait besoin d'épancher son amour maternel. Toutefois, cela était mal perçu. Elle a été pour moi une confidente à un moment de ma vie où j'avais besoin d'une oreille attentive. Cela s'est fait par l'échange de courriers. Pendant le carnaval, nous avions voulu jouer un tour à nos enseignants et nous nous étions cachés en dessous de la cage d'escalier. Toute la classe était complice. Aussi, après la cloche, la direction ainsi que les enseignants étaient à notre recherche. Nous entendions dans les couloirs. « 9e scientifique C, où êtes-vous? » Nous avions bien mal à retenir nos rires. Quelques minutes plus tard, nous avons réintégré notre classe. Nous avons écopé d'une retenue, c'est sûr. Mais quel merveilleux sentiment que d'être solidaire! 10e année. Changement de costume. Ce fut l'année du Front commun. Une grève qui a duré plusieurs semaines. J'ai retrouvé mon groupe et me suis fait de nouvelles amies. Mon professeur d'anglais trouvait que je dérangeais. Bien entendu, je m'ennuyais. Une fois que j'avais compris la matière, je parlais avec mes copines, ce qui perturbait la classe, c'est Madame S. L'année qui suivit fut sans histoire. Ainsi, je quittais ce collège, aujourd'hui dédié à la douance. Faire confiance. La confiance permet d'avancer, de se sentir soutenu et d'oser. Mon expérience de gestionnaire scolaire fut enrichissante, prenante et exigeante, qui m'a beaucoup appris sur le genre humain et sur moi-même. Certains jours ou même certains temps de l'année, ce sont de véritables tsunamis qui déferlent dans mon bureau. Heureusement que, depuis ma tendre enfance, j'écoute aux portes les conversations des grands. Cela m'a permis de mieux cerner la psyché humaine. J'ai lu beaucoup de livres traitant du sujet. Certains ont été plus inspirants que d'autres. Mieux diriger sans se fatiguer, de Jean-François Ducharme, rappelle que la relation au pouvoir de chaque individu vient de l'enfance et qu'en conséquence, tout nouveau chef hérite de l'enfance que chacun de ses subordonnés fut dans le passé et qu'il est encore intérieurement. Je pourrais vous parler longuement du fameux transfert. J'ai appris à ne rien prendre personnel. Facile à dire, moins facile à faire. Dans les enseignements d'un dirigeant asiatique, sagesse et efficacité, de Korksak Sherasmisak, il est dit qu'être un leader bienveillant et attentif ne signifie pas de se laisser faire ou chercher à plaire ou à faire plaisir. Cela requiert d'être réceptif, de se sentir concerné par le bien-être de ses collaborateurs, par leur succès, par leurs difficultés, et d'être prêt à les protéger et à les aider au bon moment. Et ce, d'une façon appropriée. C'est à cette vision du management que je souscris. J'ai un certain don pour reconnaître le potentiel des gens, alors qu'eux-mêmes ne le voient pas. 2 mois après mon arrivée en poste, une employée senior avait été promue à de nouvelles fonctions. Sa remplaçante, une femme qui effectuait un retour sur le marché du travail, m'a avoué ne pas se sentir à la hauteur pour faire le remplacement. Je lui ai alors dit que si elle avait été choisie, c'est parce qu'on lui reconnaissait des compétences et qu'elle pouvait compter sur moi. Peu à peu, au fil des semaines, je l'ai vue se détendre et prendre confiance dans son nouveau poste. Ce fut une employée dévouée, loyale, toujours bien mise, respectueuse des gens. Je n'ai jamais regretté mon choix. Le jour où l'on m'a confié la responsabilité de mettre en place les programmes santé, j'ai ressenti un grand vertige. Comment allais-je m'y prendre, moi qui n'avais aucune expérience dans le domaine? Ce qui m'a porté, c'est l'encouragement de mon mentor, de la coordonnatrice aux finances et d'une conseillère pédagogique spécialisée dans ce domaine. Je n'ai pas eu le choix de faire confiance alors que mes supérieurs croyaient en moi. Ce fut toute une épopée. J'ai alors commencé à recruter des enseignants. C'est ainsi que je l'ai rencontré. Il venait tout juste d'arriver au Québec. Médecin et enseignant à l'université dans son pays. J'ai reconnu en lui la rigueur et le cœur. La confiance a toujours été au rendez-vous. Il était très créatif pour contourner les embûches et son jugement assuré. D'enseignant, il est devenu chef de groupe, puis conseiller pédagogique et directeur adjoint par intérim. Je sais les efforts qu'il a mis pour arriver où il est, et surtout l'humilité dont il a fait preuve pour retourner aux études. J'en ai croisé plusieurs à qui j'ai confié des postes de responsabilité. Toujours cette peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas tout de déléguer. Il faut aussi prendre le temps d'accompagner. À court terme, c'est exigeant. À long terme, tout le monde est gagnant. Quand vient le temps d'ajouter un membre à l'équipe de direction, des entrevues ont eu lieu. Parmi les candidatures, il y avait une personne avec une expertise dans le domaine de la santé. Mon supérieur n'avait manifestement aucun intérêt pour celle-ci. Moi, j'y avais vu un atout important pour le développement du centre. Il m'avait alors dit que c'était ma décision et que je devais l'assumer, ce que j'ai fait. Ce fut une excellente décision. Le centre ne serait pas devenu ce qu'il est sans sa contribution. Un jour, en entrant dans le bureau de la conseillère aux élèves, une femme était en pleurs. Je lui ai demandé qui elle était, quelle était la cause de cette peine, de quel pays elle venait et ce qu'elle y faisait. Quand les gens parlent de qui ils sont et d'où ils viennent, cela me permet de mieux intervenir. Une femme brillante, mais qui avait de la difficulté avec la langue française. Bardée de diplômes universitaires dans le domaine dentaire, elle voulait intégrer le marché du travail rapidement pour subvenir aux besoins des siens. J'étais alors à planifier l'implantation du programme en assistance dentaire et lui ai dit de me remettre son CV. Lorsqu'il m'est arrivé, il mesurait 1 pouce de hauteur. De plus, cette personne avait une expertise en gestion des cabinets dentaires, sa famille en possédant dans son pays d'origine. Je lui ai téléphoné quelques mois plus tard pour une entrevue. Malgré une situation particulière, elle s'est inscrite au baccalauréat en enseignement et entrepris des démarches pour se faire reconnaître des acquis de compétences. J'ai su tout récemment que le jour où je lui ai téléphoné pour l'entrevue, ses valises étaient faites et qu'elle s'apprêtait à repartir dans son pays. Je crois que le hasard n'existe pas. Guétan Frigon, un gestionnaire chevronné et dragon réputé, a déjà dit que pour être un bon patron, il ne faut pas se prendre pour le boss. Respecter ses employés et prendre des décisions. Je me rallie beaucoup à cette façon de voir. Quand j'étais avec mon équipe, j'étais le chef d'orchestre, celle qui prenait des décisions, bonnes et moins bonnes. J'étais payée pour cela. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas que l'on me fasse. L'expérience m'a appris que ce n'est pas un poste pour gagner un concours de popularité ni faire l'unanimité. Ce que je sais cependant, et cela je le sais, c'est qu'en étant que patron, j'ai le pouvoir de faire la différence dans la vie des gens en créant un climat où le plaisir est au rendez-vous. Au printemps 2015, j'assistais à une rencontre où il était question des marques de reconnaissance à l'intention des employés. L'animateur, très féru d'éthique, nous entretenait de ce qu'était la reconnaissance, la distinguant de la récompense. Il disait que c'était une forme sociale du souvenir, une tradition en transmettant à un autre un ensemble de manières de faire, un héritage quoi. Pendant que notre mesmer éthicien discourait, il avait la même voix. Je m'interrogeais sur ma façon de reconnaître mon personnel. Pour moi, la reconnaissance est ce qui donne un sens à la personne à qui on l'adresse. C'est une forme d'attention, non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'elle vient du cœur. Je me suis souvenue des lilas, des muguets, de la menthe, des tomates que je déposais dans les cuisines du personnel, la mise en place d'un club de lecture, des dîners de fin d'année où je prêtais livres et CD pour agrémenter les vacances. Quand j'ai annoncé mon départ, j'ai pris le temps de rencontrer mes proches collaborateurs. J'ai eu droit à des témoignages émouvants, ponctués de fous de rire, de pleurs. Heureusement, les papiers mouchoirs n'étaient jamais très loin. J'ai été étonnée d'être un modèle pour plusieurs jeunes femmes. Plusieurs m'ont remercié de leur avoir fait confiance, de leur avoir donné leur chance. D'autres ont souligné mes qualités de cœur, de justice, d'équité. Il fut aussi question d'une main de fer dans un gant de velours. Je l'avoue, tout cela m'a fait un beau velours. C'est aussi cela, la reconnaissance. Je ne vous cacherai pas qu'après toutes ces années à bâtir une équipe, j'étais soucieuse de la succession. Un climat de travail se construit dans le respect des gens, l'équité et la transparence. J'ajouterai aussi, dans le faire confiance, en regardant le potentiel des membres de l'équipe et leur donner une chance de s'épanouir. Nous n'avons pas toutes les solutions, ni le monopole des bonnes décisions. Les meilleures idées émergent en consultant les gens. Il faut arroser les fleurs, pas les mauvaises herbes.
Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.